RCF. RCF, les racines du présent.
Bonjour à tous, au micro Frédéric Mounier et bienvenue dans notre studio de RCF, donc pour cette nouvelle édition des Racines du Présent, toujours comme chaque semaine en partenariat avec le quotidien La Croix. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur du 19e siècle, ce siècle qui a vu naître notre République, ce siècle, il est vrai, plutôt méconnu. Alors cette naissance de notre République, nous allons le voir, a été marquée par des luttes incessantes, des violences révolutionnaires. Au fil de ces épisodes que nous allons revisiter ensemble, notre République a hésité entre plusieurs modèles, plusieurs versions. Une version plus sociale, fondée sur une forme de démocratie directe, qu'on a vue à l'œuvre plutôt brièvement, on le verra tout à l'heure, en 1830, en février 48, puis sous la Commune. Et puis peut-être une République plus libérale, parlementaire, fondée sur une démocratie représentative, et qui a finalement donné corps à la Troisième République, puis plus tard à notre Quatrième et à notre Cinquième République. Alors tout au long de cet accouchement difficile, qui a duré tout le XIXe siècle, une question est restée lancinante. La République a-t-elle peur du peuple? Avec nos trois invités historiens, nous allons tenter quelques réponses à ces questions. Marie-Hélène Bellac, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, vous publiez chez Perrin un livre absolument passionnant intitulé « La peur du peuple » et le titre dit bien le concept, sous-titre « Histoire de la Deuxième République, 1848-1852 ». Avec nous également Gérard Ringer, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Votre dernier livre, qui fait suite à de nombreux autres livres, s'intitule tout simplement « Gambetta », il est publié chez Perrin. Et donc c'est une biographie de ce grand républicain que nous allons ausculter tout à l'heure avec vous plus précisément. Et nous serons bientôt en ligne avec Daniel de Montplaisir, qui sera en duplex avec nous depuis le Québec, pour son livre intitulé « Les Trois Glorieuses, la Révolution de 1830 démystifiée », et c'est chez Perrin. Voilà notre thème aujourd'hui, la République a-t-elle peur du peuple ?
Les racines du présent, Frédéric Mounier.
Alors Marie-Hélène Bellac, je me tourne d'abord vers vous. La peur du peuple, c'est précisément le thème de votre livre qui nous entraîne tout au long d'une histoire de la Deuxième République, une histoire fort méconnue de 1848 à 1852. C'est publié chez Perrin. Alors d'abord, peut-être pouvez-vous procéder à un simple rappel des faits. Où en est la France au début de 1848, Marie-Hélène Bellac?
Au début de 1848, le malaise est grand. Au niveau de la classe politique, notamment au niveau tout simplement de ceux qui soutiennent le roi Louis-Philippe, il y a ce qu'on appelle la gauche dynastique, qui estime qu'il faut faire des réformes et notamment qu'il faudrait élargir le droit de vote, puisque celui-ci est encore très restreint, c'est un suffrage censitaire.
Donc et aussi, selon les impôts qu'on paye.
Paye. Et aussi qui estime qu'il faudrait une autre réforme qui consisterait à empêcher que l'on puisse être à la fois fonctionnaire et élu à la Chambre.
Pour quelle raison ?
Tout simplement parce que le gouvernement à ce moment-là a, disons, moyen de pression sur les fonctionnaires, hein, puisque leur avancement dépend aussi de la façon dont ils se comportent lors des votes à la Chambre. Voilà.
Alors il faut rappeler que Louis-Philippe est arrivé au pouvoir en 1830, lui-même à la suite d'une révolution.
Oui.
Beaucoup d'espoir avait reposé sur lui.
Et certains espéraient à ce moment-là la République, et Lafayette avait finalement imposé donc la monarchie de Juillet, Louis-Philippe, et Lafayette avait même dit que ce serait la meilleure des républiques, que la monarchie de Juillet serait la meilleure des républiques. Et donc ça a été la déception, parce qu'en fait, les républicains ont été très vite pourchassés. Il est même arrivé un moment où on n'avait pas le droit de prononcer le mot de républicain. On n'avait pas le droit de se déclarer républicain. Donc, à côté de cette opposition dynastique, il y a d'abord un malaise général, une crise économique, sociale.
Oui, comment se porte le pays sur le plan économique et social en ce début de 1848 ?
Le pays se porte mal parce qu'il y a eu des mauvaises récoltes, notamment en 1847. Et donc,
déjà le rôle du climat.
Voilà, le rôle du climat. Les campagnes ont subi donc une crise qui se répercute évidemment sur l'industrie, sur la situation générale.
Car la France est essentiellement agricole.
Elle est surtout...
Mais avec une industrie qui commence
à naître, et on voit émerger des concentrations industrielles du type de celles qui existent en Angleterre, c'est-à-dire ce monde des fabriques, ce qui va donner naissance en fait au prolétariat, à la paupérisation.
Voilà, on est au début de ce processus.
Au début de ce processus d'industrialisation moderne. Et c'est aussi ce qui explique qu'il y a un certain nombre de gens qui, pendant cette première moitié du 19e, s'interrogent sur le sort de ce prolétariat, de ce peuple. Et en fait, on voit émerger pendant cette première moitié du 19e siècle ce que l'on a appelé les socialismes utopiques, ce que Marx a appelé les socialismes utopiques, avec des gens comme Fourier, comme Cabet, comme Proudhon. La propriété, c'est le vol. En fait, c'est plus compliqué que ça. Comme aussi Louis Blanc, qui prône l'organisation du travail et qui prône...
Alors, que représentaient ces socialistes dans l'échiquier politique de l'époque ? C'était des groupuscules ou c'était des forces organisées ?
Alors, dans l'échiquier politique, en fait, étant donné la répression dont les Républicains ont été victimes sous la monarchie de Juillet... Il y a une partie qui, d'abord, qui a été, je pense à Blanqui, qui a été emprisonné.
Auguste Blanqui.
Voilà, qui a connu...
Qu'on surnommait l'enfermé.
Voilà, l'enfermé, on l'a surnommé.
Il a toujours vécu en prison, ce homme-là.
Voilà, presque.
Presque, oui.
Et puis, mais à côté de ça, il y a un certain nombre de gens qui ont pensé, mais c'est une poignée, ils sont très peu nombreux à la Chambre, ils sont une douzaine, qu'il fallait peut-être passer par des réformes. Ne plus être dans l'insurrection, dans la révolution. Voilà. Mais essayer de tenter des réformes.
Et on retrouve là une tension entre le réformisme ou la révolution.
Ou la révolution. Mmh. Voilà, Blanqui pense qu'il faut la révolution et d'autres pensent qu'on peut se réformer. Et comme de l'autre côté aussi, on a cette idée qu'il faut réformer la France. Des gens comme Tocqueville, comme Lamartine pensent.
Du côté libéral.
Voilà, du côté libéral, du côté de gens qui sont pour la monarchie en fait. Donc on assiste à une rencontre de ces deux groupes, si je puis dire. Les socialistes qui sont prêts à jouer le jeu de la légalité, et puis ce qu'on appelle l'opposition dynastique avec Odilon Barrot, qui pense qu'il faut des réformes. Et donc on se retrouve à la veille de la Révolution.
Un moment de grande tension.
Voilà, un moment de grande tension, et à des banquets, ça permet de détourner...
Alors les banquets, ces fameux banquets républicains qui réunissaient des centaines de convives, c'était pas uniquement pour se nourrir et pour faire la fête.
Ah non, pas du tout.
C'était des réunions politiques.
Voilà, et des Camarades Flaubert qui disent ce qu'ils ont mangé.
Non, ils ont mangé de la viande froide.
Voilà, de la viande
si
froide.
Si on vous lit bien, Marilyn Bellac,
Et donc, en fait, il s'agit de détourner, je disais, l'interdiction de réunions publiques et de faire des discours. Alors, au début, il y a encore des toasts au roi, mais très rapidement, justement, avec l'arrivée dans les banquets des socialistes, des radicaux, comme on les appelle, on va aller avec des demandes de réforme beaucoup plus affirmé.
Alors, nous arrivons en février 1848. Que se passe-t-il, Marie-Hélène?
Alors, en février, un banquet a été interdit à Paris. Ça devait être un dernier banquet. Et finalement, ce banquet ne pouvant pas avoir lieu, je passe sur les transactions, c'est relativement complexe, une partie, quand même, des socialistes décide de manifester. Et donc, ces manifestations qui commencent le 23 février vont dégénérer dès le 24 février.
Donc des barricades.
Des barricades.
Le peuple en insurrection.
Le peuple en insurrection.
Lorsqu'on dit le peuple, de qui s'agit-il en février 1848 ?
Alors, en février 1848, il s'agit déjà surtout des quartiers est de la capitale, c'est-à-dire du Paris ouvrier et du Paris des artisans. Il faut voir que Paris était une ville extrêmement industrieuse. Et donc, en fait, ces gens-là décident, les étudiants aussi, une partie des étudiants, ces gens-là
ce qu'on voit en couverture de votre livre, ce sont des étudiants
alors,
de polytechnique.
Voilà, alors ce sont même des polytechniciens.
Oui, c'est carrément l'élite déjà.
L'élite,
Oui. Et donc, tous ces gens-là construisent des barricades. Et que se passe-t-il ?
Et ce qui se passe, c'est que la garde nationale pactise avec le peuple.
La garde nationale, donc, c'est une sorte de milice bourgeoise,
dire ça ? Alors, en théorie, c'est plus compliqué que ça, parce que c'était tous les citoyens.
Voilà.
Mais effectivement, sous Louis-Philippe, ça avait été restreint, et c'était plutôt, disons, une petite bourgeoisie qui y participait.
Et il y a une convergence des luttes, comme on dit aujourd'hui.
Exactement.
Oui.
Et donc, le 24, je passe sur le détail, Louis-Philippe qui essaye de raccommoder, si je puis dire. Et puis, eh bien, il est obligé d'abdiquer, il s'enfuit.
Très rapidement.
Très vite. Il n'essaye même pas de lutter.
C'est fascinant de voir, lorsqu'on vous lit, Marie-Hélène Bellac, de voir à quel point le pouvoir est fragile et que ce roi, qui lui-même était issu d'une révolution et qui était le fils, quand même, d'un homme qui avait voté la mort de son cousin, la mort de Louis XVI.
Tout à fait.
Donc il savait ce que c'était qu'une révolution. Oui. Le duc d'Orléans, Louis-Philippe, il le savait. Et là, on a l'impression, en vous lisant, et en lisant beaucoup d'historiens, qu'il a été pris au dépourvu.
Oui, il a été étonné. Il faut dire qu'il était quand même fragilisé à ce moment-là. La mort de son fils aîné, qui était quand même son appui et qui, on espérait justement qu'il saurait réformer la monarchie, les deux autres qui étaient partis, la mort de sa sœur aussi qui va intervenir. Donc
il y a un moment où le pouvoir devient fragile et sourd et peut-être aveugle, c'est ça?
Oui, tout à fait.
D'accord.
Et il a signé sur un bout de
bureau. Oui, avec beaucoup de ratures. Hein,
avec son abdication, et puis il est parti
en catimini, par les Tuileries, la place de la Concorde.
Tuileries, vers Évreux, et puis très vite en Angleterre.
Oui. Hein, oui. Aussi tristement que Charles X, que son cousin en 1830.
Et en n'ayant pas, parce que Charles X avait de lutter quand même, de résister, alors que lui, c'est pas le cas.
C'est ça. Oui. Alors, la troupe a tiré.
Oui, bien sûr.
Alors,
la troupe a tiré.
Qui a tiré contre qui,
Alors, qui a tiré? En fait, c'est l'armée qui a tiré. Ce sont aussi les municipaux, ce qu'on appelait les municipaux, qui étaient une police parisienne, qui était d'ailleurs détestée des Parisiens, des habitants de Paris, tout simplement parce que comme ils étaient payés, ils obéissaient. Mmh. Mais finalement, dans cette... l'opposition était déjà bien préparée, je dirais, elle a tout de suite pris les choses en main. Et donc un gouvernement provisoire s'est constitué à l'hôtel de ville dès le 24 au soir. Un gouvernement dont le vrai chef, même si nominalement ce n'était pas lui, il était que le ministre des Affaires étrangères, était Lamartine.
Lamartine, grand poète.
Le grand poète et grand homme politique.
Figure de l'opposition sous Louis-Philippe.
Sous Louis-Philippe et homme politique.
Là, il a été en quelque sorte porté sur un nuage, non?
Oui, complètement. Il pense que l'heure est arrivée, mais en même temps, c'est vrai qu'il faut reconnaître c'est un exploit qu'il a réussi, parce qu'il s'est retrouvé finalement les vrais républicains, il n'y en avait pas beaucoup. Mmh. Par contre, le peuple voulait la République. Et comme on la lui avait prise en 1830, il n'avait absolument pas l'intention de se la faire confisquer cette fois-ci.
Pour être plus précis, Marie-Hélène Bellac, quel peuple voulait quelle République à ce moment-là?
Alors, quel peuple voulait quelle République? Le peuple des Parisiens, enfin, parce que c'est d'abord à Paris, c'est sur Paris qui est le centre névralgique.
On va en parler tout à l'heure.
Voulait une République sociale.
Sociale.
Alors, c'est là justement, c'est pour ça que cette période est tellement importante, parce que je pense que c'est vraiment le moment où la question sociale fait éruption sur la scène politique et va entraîner une division droite-gauche qui dure jusqu'à nos jours.
C'est ça.
En fait,
vous voyez cette même ligne de fracture.
Donc c'est un moment capital.
On veut plus de justice sociale.
Voilà. On veut la justice sociale.
Et donc on s'affronte aux partisans de l'ordre, c'est ça ?
Aux partisans de l'ordre et aux libéraux, en termes économiques, les libéraux. Parce que ce que veulent des gens, donc comme, on parlait de Danqui, mais... Louis Blanc. Donc ce que veut Louis Blanc, qui d'ailleurs fait partie du gouvernement provisoire, c'est donc l'organisation du travail et l'association des ouvriers pour ce travail et pour se partager les fruits du travail. Et il pense que cette organisation des ouvriers va progressivement éliminer le système capitaliste.
Oui, c'est ça.
Qui mourra de lui-même.
Hein.
Ah oui, c'est tout à fait ça. Mm-hmm. Hein. Je veux dire, c'est extrêmement moderne.
Oui,
on n'a jamais été jusque-là.
Alors même que le système capitaliste n'est pas véritablement encore installé.
Pas encore installé, mais en fait, disons, c'est le système libéral.
D'accord. Hein, on veut une vraie révolution sociale.
On veut une vraie révolution sociale. Alors, Lamartine va réussir à écarter ceux qui voulaient lui imposer le drapeau rouge, excusez-moi.
C'est-à-dire les anarchistes révolutionnaires.
Enfin, il n'y a pas encore vraiment d'anarchistes.
C'était qui? C'était Barbès?
C'est Blanqui, surtout, qui était derrière ça.
D'accord.
Et donc, il va faire triompher le drapeau bleu, blanc, rouge, d'ailleurs, de façon définitive. Mais par contre, sous la pression de la foule, il accepte de déclarer, le gouvernement provisoire déclare, que on va s'intéresser à l'organisation du travail, garantir le droit au travail, le droit du travail aux ouvriers et l'organisation du travail. Par contre, il ne cède pas sur la création d'un ministère du travail, du progrès, mais le gouvernement provisoire crée une sorte d'instance de réflexion qu'on appelle la commission du Luxembourg, parce qu'elle s'installe tout simplement... dans les bâtiments où avant siégeaient les pairs au Luxembourg. Donc en plus
le
palais de Marie de Médicis. Mm-hmm. Il y a un clin d'œil,
Donc une sorte de réunion de démocratie participative permanente qui se tient au Sénat.
Oui, et c'est bien le mot parce qu'en 68, où on débat, va réfléchir.
On peut faire ce parallèle.
Et où on fait d'ailleurs.
Et le Sénat est pas loin du théâtre de l'Odéon, du reste.
Tout à fait.
Oui.
Et alors en plus, il vote une commission paritaire. Hein, où il y a moitié ouvrier, moitié patron.
Donc il s'agit vraiment de démocratie directe,
Complètement.
D'accord.
Oui, oui.
Et alors donc tout le monde baigne dans cette espérance. Alors s'est-il agi d'une espérance ou d'une illusion, Marie-Hélène Bellac?
Oh, Moi, je dirais les deux, parce qu'il y a une espérance. Des gens comme Georges Sand
croient.
Elle y a cru.
Elle y a véritablement cru.
Ouais. Elle a d'ailleurs participé à l'écriture des bulletins du ministre de l'Intérieur. Mais c'est aussi, bien sûr, une illusion. C'est une terrible illusion, parce que on a parlé de l'illusion lyrique. Hein. C'est bien ça. Parce qu'en réalité, les riches ont peur.
Oui.
Et d'ailleurs, ils quittent Paris. Hein, donc, il y a vraiment une difficulté. Et puis, ils sont bien décidés à reprendre la situation en main. Et c'est ce qui va se passer.
Alors, ça va se passer comment et pourquoi? Donc, si je vous ai bien lu, Marie-Hélène Bellac, on crée ces fameux ateliers nationaux pour donner du travail à tout le monde.
Oui, c'est simplement des ateliers de charité.
Voilà.
Ce n'est pas l'organisation du travail.
Donc, en fait, le nombre de personnes qui vont être appointées à ces ateliers nationaux va croître de façon exponentielle.
Oui, oui.
Et puis, on ne saura plus quoi leur faire faire.
Oui, au bout d'un moment, il n'y a plus de travail. Mais enfin, même avant, je dirais, même avant, très progressivement, on a un affrontement, enfin très progressivement, assez vite, un affrontement entre ceux qui veulent la République sociale et ceux qui veulent l'ordre et éventuellement une République libérale ou semi-libérale. Mmh. Parce que, notamment, ça commence au mois d'avril, enfin, même il y a des journées avant, mais l'histoire de cette période est de journées révolutionnaires. Mmh. Et... Donc, au mois d'avril, alors que les ouvriers voulaient manifester relativement pacifiquement, on lance la garde contre eux et avec des mots d'ordre, on fait croire que ce sont des communistes, donc ah bah les communistes, allô les communistes,
des rouges,
les partageux, les rouges, voilà. Mmh. Et puis ça va se renouveler alors. Effectivement, le 15 mai, où on a même 48, hein, toujours, on a même la foule qui envahit l'Assemblée nationale, enfin l'Assemblée constituante pour être exact, et un meneur qui déclare l'Assemblée dissoute au nom du peuple trompé. Voyez,
c'est ça.
Hein, voilà.
Donc là, il y a une sorte de gigantesque méprise. Et pourtant, dès les débuts entre février et mars 48, il y a quand même des acquis.
Oui.
Il y a le changement du mode de scrutin.
Oui, ah ben ça,
pour la première fois, on passe au suffrage universel.
Oui, direct, masculin.
Direct et masculin.
Oui.
C'est-à-dire on passe en gros d'un corps électoral de 300 000 personnes ou 400 000 personnes.
Millions.
À plus de 9 millions. En quelques semaines.
Oui.
Comment se passent ces premières élections?
Eh bien, elle se passe bien. Les gens vont voter, souvent d'ailleurs sous la conduite des notables locaux.
C'est ce que raconte Tocqueville.
Voilà, c'est ce que raconte Tocqueville. Il y a une abstention qui est relativement modérée, je crois que c'est 20% si je me souviens bien. Hein. Et les gens vont voter de manière très disciplinée et ils votent pour les conservateurs.
Donc c'est le curé,
voilà,
le bourgeois local,
le grand propriétaire, sauf bien sûr dans les régions industrialisées ou à Paris, c'est un petit peu différent. Mais les Français votent, voilà.
Les Français votent, et ça c'est... Bon, alors, les Français, mais pas les Françaises, il faut le rappeler quand même.
Non, pas les Françaises.
Voilà.
Avant de Gaulle.
Et nous avons quand même l'élection du président de la République au suffrage universel, c'est ça.
Oui, le 10 décembre 48... Voilà. Louis-Napoléon Bonaparte est élu au suffrage universel avec 74% des suffrages et il y a eu 25% d'abstention.
Donc ça, c'est des choses qui restent dans notre histoire.
Et comment?
Ce sont des piliers.
Ah, oui.
Donc ça n'a pas été qu'une illusion.
Non. Et puis il y a eu quand même une diminution de la journée de travail, même si après elle va être réaugmentée. Il y a eu la suppression des intermédiaires entre les patrons et les ouvriers. Il y a eu aussi un certain nombre d'organisations d'assurance. On ne peut pas dire qu'il n'y a rien eu. Hein, pas du tout. Et ça va se perpétuer après.
Gérard Ringer voudrait réagir.
L'abolition de l'esclavage,
quelque chose dont
on n'a pas perçu complètement à l'époque l'importance,
absolument,
mais aujourd'hui.
C'est ça.
Quand j'ai écrit mon Lamartine 150 ans après, en 98, je m'attendais à ce qu'on retienne l'idée du suffrage universel. Mais comme il n'était que masculin, il est un peu passé à la trappe et l'accent sur la révolution de 48, 150 ans après, a été mis sur l'abolition de l'esclavage.
Oui, c'est ça.
Oui, et puis il y aurait encore, beaucoup de choses, et même quelque chose qui peut sembler anecdotique, mais qui est important, c'est la création du timbre-poste.
Absolument.
Pour la première fois, les Français pouvaient envoyer leur courrier.
Un service postal ouvert à tous. Voilà.
Oui.
Donc en très peu de temps, il y a eu beaucoup de choses neuves, disons, mais on a le sentiment, en vous lisant Marie-Hélène Bellac, que... En fait, c'est une évidence de dire ça, mais les révolutionnaires se sont assez vite entre-dévorés.
Complètement. Les socialistes ont complètement divisé.
Ouais.
Bon, sans compter que c'est vrai qu'ils ont été écrasés, éliminés, emprisonnés, partis en exil. On peut dire que... Alors, ce qui est intéressant, c'est que finalement, Après 49, enfin les élections législatives, il n'y a plus de grands leaders. Enfin, il y en a presque plus de grands leaders. Ils sont tous ou sous les verrous ou à Londres. Bon, mais se constituent quand même des bastions socialistes qui vont perdurer dans le sud-est de la France. Disons en gros entre le Limousin et les Alpes-Maritimes. Et on a là un socialisme rural, hein, c'est pas uniquement
parisien,
etc. Donc c'est assez intéressant et vont se créer des sociétés secrètes. En fait, alors on a quand même 30% d'élus à l'Assemblée et on a en même temps ces sociétés secrètes. Donc il est pas complètement mort.
Il y a un ferment.
Voilà. Voilà.
Disons républicain radical qui subsiste. Alors, on l'a pas encore dit, mais en juin 48, la République a fait tirer sur le peuple.
Ah, complètement.
Ah, bah, il y a eu des milliers de morts à Paris.
Je dirais c'est avant la Commune, hein, mais ça. C'est,
voilà,
on
parle beaucoup de la Commune. Oui. Enfin, on a beaucoup parlé de la Commune, mais on se souvient peu de du caractère sanglant de ces journées de juin 48. Où la République a fait tirer sur le peuple,
Redis. C'est terrible, Et pensez à Flaubert qui raconte comment dans les sous-sols près de la Seine, les prisonniers étaient entassés et quand ils bougeaient, on leur tirait dessus. C'est épouvantable. Hein,
Alors vous citez Marie-Hélène Bellac et puis ensuite on va donner la parole à votre collègue Daniel de Montplaisir qui nous attend de l'autre côté de l'océan pour parler des journées de 1830, alors une autre révolution. Mais je voudrais citer rapidement Victor Hugo que vous évoquez dans votre livre et qui met bien en perspective les deux républiques que nous venons d'évoquer dans notre conversation. Je cite Victor Hugo, deux républiques sont possibles, l'une abattra le drapeau tricolore sous le drapeau rouge, jettera bas la statue de Napoléon et dressera la statue de Marat. Elle remettra en mouvement ces deux machines fatales qui ne sont pas l'une sans l'autre, la planche aux assignats et la bascule de guillotine. En un mot, fera froidement ce que les hommes de 93 ont fait ardemment. De ces deux républiques, celle-ci s'appelle la terreur et l'autre assurera la propriété comme la représentation du travail accompli, le travail comme l'élément de la propriété future. Je suis prêt, dit Victor Hugo, à soutenir cette république qui s'appelle la civilisation.
Oui.
Voilà. C'est caricatural à votre avis ou bien est-ce qu'on montre bien la fracture ?
Non, ça montre bien la fracture. Bon, c'est amusant parce que Victor Hugo ensuite va passer à gauche et dire on ne va pas avoir Napoléon le petit après avoir eu Napoléon le grand.
Et on verra peut-être tout à l'heure que Victor Hugo aurait bien voulu être ministre
de Louis Napoléon. Il aurait bien
voulu être
ministre de Louis Napoléon.
Voilà, il y a aussi un aspect opportuniste qu'il faut le rappeler aussi. Voilà. Gérard Ingers acquiesce aussi. Voilà.
Oui, complètement.
Victor Hugo n'a pas toujours porté le même drapeau. Mais là, en l'occurrence, disons, son pouvoir évocateur est juste.
Est juste, oui.
D'accord.
Est fort,
Qu'est-ce que vous avez retenu de vos années de travail, Marie-Hélène Bellac, pour écrire ce livre passionnant intitulé La peur du peuple, histoire de la Deuxième République, 1848-1852 chez Perrin. Qu'est-ce qui vous a marqué au fond avec vos yeux d'historienne ?
Ce sont tous ces débats à l'Assemblée qui sont parfois, enfin, quand on lit, dans le fond, j'ai pas pu en retranscrire beaucoup, mais je l'ai fait un petit peu. On est quand même, on se dit des fois, on pense au débat actuel, où vraiment, on se dit, mais ils sont complètement loin des réalités. Loin des réalités. Il y a quand même quelque chose qui est extraordinaire. À la fin de la période, la gauche en vient à soutenir Louis-Napoléon. Elle va se faire complètement avoir. Parce que Louis-Napoléon veut rétablir le suffrage universel, qui a été supprimé à l'instigation des conservateurs. Et donc, on voit, par exemple, Michel de Bourges dire, mais de toute façon, on n'a pas peur, le peuple n'a pas peur, le peuple, je n'ai plus la phrase en
c'est ce qu'on appelle le populisme,
tête,
peut-être.
Voilà, exactement. De toute façon, il se défendra toujours, on ne risque rien, le peuple est une sentinelle, voilà.
Et ensuite, on le verra tout à l'heure avec Gérard Ingers, comment est-ce que Louis-Napoléon est arrivé au pouvoir et est devenu Napoléon III. Merci beaucoup à vous, Marie-Hélène Bellac, pardonnez-moi, pour cette évocation des journées du 1848, cette évocation passionnante de la Deuxième République. Vous restez avec nous et vous vous sentirez tout à fait libre de réagir. Nous allons parler dans quelques instants avec Daniel de Montplaisir qui va évoquer avec nous la Révolution de 1830 démystifiée.
Les racines du présent. RCF.
Au micro, Frédéric Mounier. Aujourd'hui, le thème de cette édition des Racines du Présent, la République a-t-elle peur du peuple? Et nous retraçons l'histoire de la République au fil du 19e siècle. Nous avons commencé avec Marie-Hélène Bellac, qui a retracé pour nous l'histoire de la Deuxième République de 1848 à 1852. Nous allons dans un instant parler avec Daniel de Montplaisir, qui est avec nous en duplex du Canada pour son livre « Les Trois Glorieuses, la Révolution de 1830 démystifiée », c'est chez Perrin. Et ensuite, nous aborderons la grande biographie de Gambetta que publie Gérard Inger. Alors, Daniel de Montplaisir, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, vous retracez avec un grand talent donc les Trois Glorieuses de 1830. Pourquoi avez-vous souhaité titrer votre livre « La Révolution de 1830 démystifiée » Daniel de Montplaisir, que fallait-il donc démystifier?
Parce que cette révolution de 1830, elle a été perçue par les historiens avec énormément d'idées reçues. C'est une époque de l'histoire, les Trois Glorieuses des 27, 28 et 29 juillet 1830, je le rappelle, qui ont renversé le régime conservateur de
Charles X. Rappelez-nous, oui. Charles X, sur lequel vous avez écrit une biographie, il faut le rappeler.
Également, oui. Voilà. Charles X monte sur le trône en 1824. C'est un homme qui a l'image d'être extrêmement conservateur, voire réactionnaire, souhaitait le retour à l'ancien régime, et donc nécessairement, il n'est plus en phase avec son temps, et en juillet 1830, une révolution populaire le renverse. Voilà un petit peu l'idée reçue générale.
Alors vous écrivez qu'en 1830, la France était plutôt en bon état.
La France en 1830 est absolument en bon état. Les impôts sont faibles, le chômage est inexistant, le déficit budgétaire n'existe pas non plus, et par ailleurs, l'État investit, modernise, fait des ponts, des routes, le niveau de vie s'améliore considérablement. La France de 1830, a priori, c'est une France heureuse. Et en plus, il arrive cette histoire absolument formidable, sur laquelle maintenant on a un regard un peu différent, mais qui jusqu'en 1962 aura été considéré comme le fleuron de l'Empire français, c'est la prise d'Alger.
Voilà, vous insistez beaucoup sur cet aspect important de notre histoire, simultanément à ce qui s'est passé dans l'Hexagone. Est-ce que je me suis trompé en vous lisant, Daniel de Montplaisir, mais j'ai cru sentir chez vous une forme de tendresse pour Charles X, qui, je le rappelle, était le frère et le prédécesseur de Louis-Philippe.
Oui. Le frère de Louis XVIII, qui n'avait pas d'enfant, dont c'est son frère Charles X qui lui succède en 1824, et c'est le cousin de Louis-Philippe d'Orléans qui donc le renverse, enfin profite de la Révolution pour le renverser. Mais c'était un homme assez touchant parce qu'il était d'abord soucieux de bien faire, il était plein de bonhomie, il aimait le peuple, il aimait les gens, il n'a pas tout compris. C'était quelqu'un qui n'était peut-être pas d'une très grande intelligence. En revanche, et ça c'est le paradoxe de cette Révolution, il servit à partir de 1829 d'un homme tout à fait remarquable qui est Jules de Polignac, et qui a été absolument massacré par l'histoire.
Oui.
L'image de Jules de Polignac est absolument calamiteuse.
On a gardé l'idée des apparitions, que cet homme était un fervent des apparitions. Alors, vous confirmez ou vous infirmez, Daniel de Montplaisir?
Les prétendues apparitions auxquelles croyait Polignac, c'est en 1880 qu'on en parle pour la première fois.
D'accord.
Pas en 1830. Et le paradoxe de cette révolution de 1830, c'est qu'elle a été quasiment toujours écrite avec des documents ultérieurs. Donc c'est facile de dire après 1830, « Ah ben oui, c'était prévisible, on s'y attendait, regardez ce qui s'est passé, ça ne pouvait pas se dérouler autrement. » En réalité, pas du tout. Quand
D'accord.
vous regardez les journaux de l'époque et les débats de l'époque, la Révolution n'est absolument pas prévisible.
Alors, vous écrivez, Daniel de Montplaisir, que la Révolution a commencé par les journalistes. De quelle façon... Oui, alors, est-ce qu'on peut, alors, de quel journaliste s'agit-il? De quel média s'agit-il? Est-ce qu'on est dans le monde de Balzac, des illusions perdues? Est-ce que c'est autre chose? Est-ce qu'on peut faire le parallèle avec les médias sociaux, les réseaux sociaux d'aujourd'hui? Expliquez-nous, Daniel de Montplaisir.
Oui, alors, je crois qu'on peut faire effectivement le parallèle avec les médias sociaux d'aujourd'hui, beaucoup plus qu'avec le journalisme de Balzac. Parce que se promène avec plusieurs journaux, dont un journal central qui s'appelle Le National, qui a été entièrement financé par des banquiers, et à la tête desquels il y a un certain Jacques Lafitte, il n'a rien à voir avec l'ancien coureur automobile, qui sont du parti...
Mais c'était le banquier de Napoléon, si je ne me trompe pas, non?
Pardon ?
C'était le banquier de Napoléon, il me semble, non ?
Oui, absolument. Oui, il a été d'abord le banquier de Napoléon Ier. Mm-hmm. Il a été le banquier d'un peu tout le monde.
Oui, comme souvent les banquiers, du reste.
Oui, c'est vrai. C'est un homme de finance tout à fait remarquable. Et là, il y a une volonté, ce qu'on appellerait aujourd'hui la finance internationale, ce n'est pas le cas, évidemment, en 1830, c'est la finance française. Elle veut renverser ce régime politique qui est trop marqué par les paysans, le peuple, parce que c'est le sujet de votre émission,
oui.
Le peuple. Mmh. La haute finance et la grande bourgeoisie, elles détestent le peuple.
Elles le craignent.
Et elles redoutent une collusion entre Charles X et le peuple.
Oui, mais vous avez décrit Charles X comme un ultra-réactionnaire.
Alors, non, c'est l'image qu'il a d'être un ultra-réactionnaire.
D'accord.
Quand vous regardez son règne de 1824 à 1830, c'est un homme qui a fait quand même un certain nombre de réformes et qui a le souci de moderniser la France.
Mais finalement, France n'en a pas voulu.
Voilà. Oui. Il y a un journal qui s'appelle Le National, qui est financé par la Haute Banque et qui veut un changement de dynastie. Et qui procède, comme les réseaux sociaux d'aujourd'hui, par des fausses nouvelles.
Les fake news.
Les fake news, oui. Absolument. Qui trahit carrément la nation. Par exemple, il donne des informations sur la campagne d'Alger à l'ennemi. Aujourd'hui, ce serait de la haute trahison et ces gens-là se retrouveraient devant un tribunal. Sauf que la loi ne le permet pas à ce moment-là. Adolphe Thiers, qui est la principale plume de ce journal Le National, déteste le peuple. Il y a un article absolument extraordinaire dans lequel Thiers dit « Mon Dieu, pourvu, enfin je le dis en substance hein, bien sûr, pourvu que Charles X et Polignac ne s'allient pas avec le peuple, pourvu qu'ils n'instaurent pas le suffrage universel. S'ils instaurent le suffrage universel, ils sont conservés au pouvoir définitivement. »
Et donc, si je vous entends bien, Daniel de Montplaisir, cette révolution de 1830 a été une révolution de journalistes, de bourgeois, de financiers, qui a utilisé le peuple, c'est ça ?
C'est exactement ça, qui détaille le faire tuer dans les rues, hein, ça, effectivement, parce que les banquiers ne descendent pas dans la rue avec un fusil. Hein. Effectivement, le paysan a complètement réussi à actionner le peuple pour provoquer des émeutes que Charles X n'a pas voulu réprimer par la force. Il ne faut jamais oublier ça. Juillet 1830, ça ressemble beaucoup à mai 68.
Oui.
C'est un mai 68 qui aurait réussi, voyez.
C'est-à-dire que le général de Gaulle serait parti.
Je pense que si Charles X avait dit j'instaure le suffrage universel et j'interroge le peuple, comme de Gaulle l'a fait en juin 68, la révolution s'arrêtait aussitôt.
Quel parallèle faites-vous, Daniel de Montplaisir, concernant le rôle de la violence dans nos processus politiques ? Vous venez nous expliquer ce qui s'est passé en 1830, et puis vous scandez aussi dans votre livre, et nos autres auteurs aussi, les différents épisodes de violence de type révolutionnaire en 1832, 34, 48, 51, 71, puis plus tard 1934, 1936, 1944, 68, vous en avez parlé, les gilets jaunes, on n'en a pas encore parlé. Est-ce qu'il y a un fil rouge à étudier, là, Daniel de Montplaisir ?
Très probablement. Je n'ai pu hélas que l'esquisser, comme vous le rappelez, mais je vois que d'autres auteurs, comme Madame Beylac, elle, a parlé de 1848. Il y a effectivement un fil à étudier, parce que la violence qui s'est déchaînée en France à partir de 1789 n'a jamais cessé. C'est-à-dire, régulièrement, nous avons eu des épisodes violents. Et beaucoup d'hommes politiques, comme par exemple Valéry Giscard d'Estaing, expliquaient il était quand même malheureux qu'en France, pour faire de grandes transformations, on passait nécessairement par des mouvements violents. Il y a une relation entre la Révolution française, enfin, entre les changements de la société française et la violence révolutionnaire, qu'il faudrait un jour effectivement expliquer, puisque ça nous amène, vous avez raison, jusqu'au gilet jaune.
Vous faites ce parallèle ?
Le parallèle peut être fait. Vous avez cité toutes les dates de 1830 jusqu'au gilet jaune, elles sont effectivement extrêmement nombreuses.
Très bien, Daniel de Montplaisir, je vous remercie beaucoup pour cet échange. Je rappelle que vous êtes en duplex avec nous depuis le Canada. Je rappelle le titre de votre livre, Les Trois Glorieuses, la révolution de 1830 démystifiée, c'est chez Perrin. Et pour vous quitter, nous allons écouter quelques mesures de ce qui fut brièvement l'hymne national en 1830. Ça s'appelle La Parisienne, et ça a été écrit par Casimir Delavigne. Pardon. Voilà, c'était un extrait de notre, ce qui fut brièvement notre hymne national en 1830, la Parisienne, vous avez compris comme moi les paroles. Peuple français, peuple de braves, la liberté rouvre ses bras, on nous disait soyez esclaves, nous avons dit soyons soldats. Soudain Paris, dans sa mémoire, a retrouvé son cri de gloire, en avant, marchons contre le canon.
Les racines du présent, Frédéric Mounier.
Les racines du présent, aujourd'hui, nous cheminons à travers l'histoire politique du 19e siècle avec notre fil rouge. La République a-t-elle peur du peuple? Nous avons échangé avec Marie-Hélène Bella, qui est toujours avec nous, pour son livre « La peur du peuple, histoire de la Deuxième République 1848-1852 » chez Perrin. Nous venons de converser avec Daniel de Montplaisir autour de la Révolution de 1830. La Révolution de 1830 démystifiée, tel est son titre. Avec les trois glorieux, c'est toujours chez Perrin. Et je me tourne vers Gérard Inger qui a écrit dernièrement, donc, enfin qui sort en ce moment, une biographie de Gambetta chez Perrin. Alors Gérard Inger, il faut rappeler que Gambetta est très très présent dans nos villes, puisqu'il y a toujours une rue Gambetta, une avenue Gambetta, une place Gambetta, mais il est pourtant très très méconnu.
Complètement.
On peut penser que si on fait un radio-trottoir aujourd'hui, on n'aura pas beaucoup d'écho sur Gambetta.
Non. Alors, on aura peut-être l'écho du voyage en ballon. Mm-hmm. Ça a encore marqué, ça marque encore.
En octobre 1870, on
absolument
va y revenir.
Oui. Mais c'est tout.
Ouais.
Mais c'est tout. La Troisième République, de qui se souvient-on? On se souvient de Jules Ferry. Parce que les lois scolaires.
Voilà.
On se souvient, pour une période postérieure, de Clémenceau, parce que c'est le vainqueur de
le tigre.
La guerre, oui. 14-18. Et c'est à peu près tout. Donc Gambetta est passé à la trappe. Et des historiens, dès les années 30, ont pu dire que la période de naissance de la Troisième République, ce sont des années obscures,
voilà,
qui n'intéressent plus personne.
Alors, nous allons tenter de les éclairer. Alors, l'une des raisons pour lesquelles Gambetta est peut-être méconnu, c'est qu'il est mort très jeune, à 44 ans. Alors, peut-être, dans un premier temps, pourriez-vous resituer votre grand homme, ce personnage de Léon Gambetta, donc, dans la suite de ce qu'on vient d'évoquer, les journées révolutionnaires de 1830, de 1848. Où en sommes-nous dans l'histoire politique de la France, Gérard?
Alors, on en est à une période postérieure où le suffrage universel proclamé en 1848 par Lamartine s'est peu à peu acclimaté dans le paysage politique de l'époque, y compris ce qu'on a voulu ignorer pendant longtemps, le Second Empire,
mais oui,
où les Français votaient,
c'est
et
ça,
votaient régulièrement.
Et au suffrage universel.
Et au suffrage universel.
Voilà.
Et donc, il y a eu un apprentissage, mmh, du suffrage universel dont les républicains comme Gambetta vont profiter, indéniablement.
Donc le Second Empire période... a concouru à l'apprentissage de la République, en quelque sorte, on pourrait dire ça?
Oui, et même si Gambetta n'a pas voulu le reconnaître, il se rattachait à la République de 1848, mais avec de grandes différences.
À la République sociale dont on parlait tout à l'heure?
Non, c'est
non,
d'abord une différence d'approche.
Oui.
La révolution de 48, c'est une révolution romantique. On est en pleine période
vu
de romantisme.
Oui.
Donc, bon. En 1870, on est dans le positivisme d'Auguste Comte.
Scientifique.
Scientifique. Mmh. La science, le progrès, la raison. Et non pas le rêve, le romantisme. Ce qui fait que la plupart des révolutionnaires de 70 traitaient ceux de 48 comme de vieilles lunes et de vieilles barbes.
Barbe.
Et du reste, on parlait de 48 arts.
On parlait de 48 arts, de 68 arts. Donc
voilà.
il y avait une continuité, parce qu'on retrouve dans les fondateurs de la République en 70 des anciens de 1848, mais en même temps, il y avait une forme de mépris pour ces rêveurs.
Mmh.
Nous, on sait,
ces
et nous, on va défendre et proclamer une république scientifique, rationnelle, etc.
Alors, il faut quand même rappeler que, donc, en septembre 1870, au moment où on voit Gambetta véritablement apparaître sur la scène publique, c'est un effondrement absolu. C'est la fin du Second Empire. Le territoire national est envahi. Paris est assiégé. Comment se situe Léon Gambetta, le jeune avocat Léon Gambetta, à ce moment précis?
Gambetta est à la fois un républicain et un patriote. Quand la guerre est déclarée, lui affirme si Napoléon III gagne la guerre, j'en serais ravi. Et il était persuadé que les armées françaises allaient, comme il l'a dit, foutre la raclée aux Prussiens. Donc c'est d'abord un patriote. Et quand les défaites arrivent, alors là, il se révolte,
mmh,
il aide à proclamer la déchéance de l'Empire au corps législatif, et puis ensuite, il va proclamer la République à l'Hôtel de Ville avec Jules Ferry et quelques autres.
Alors, peut-être une précision, Gérard Ringer. Contre qui va-t-il proclamer cette République ? Parce que tout à l'heure, Marie-Hélène Bellac a évoqué Auguste Blanqui. Vous rappelez que au 15 août 1870, Auguste Blanqui, à la caserne de pompiers du boulevard dans l'est de Paris, avait tenté un simulacre de prise de pouvoir. Est-ce que cette veine de la République sociale, révolutionnaire, insurrectionnelle, est encore vivante ?
Oui, indéniablement, dans Paris, le même milieu que Madame Bellac a décrit, oui. Les artisans, les ouvriers qualifiés, etc. Oui, faut bien voir qu'à toute cette époque, les ouvriers d'usine tels qu'on les connaît ou qu'on les a connus n'existent pas encore pratiquement. À peine dans les usines du Creusot de Schneider et dans les usines de Vindel dans l'Est.
Donc c'était plutôt des auto-entrepreneurs, comme on dit aujourd'hui.
Oui, ou bien des commis, des apprentis, mais tous des artisans.
Qui travaillent beaucoup et gagnent peu.
Oui, encore que certains ont peut appeler une modeste aisance, quoi, pour les artisans, pour beaucoup d'entre eux. Mais eux, ils veulent effectivement des réformes sociales, tout en étant d'ailleurs très patriotes. Une des raisons de la Commune, c'est aussi le patriotisme la lutte contre les Allemands. Donc, il y a là une continuité par rapport à 48. Il y a des leaders très à gauche, beaucoup plus à gauche que les républicains comme Gambetta, vous avez Rochefort par exemple, et quelques autres qui veulent effectivement une révolution sociale. Quand vous parlez
juste qu'on verra sous la Commune,
de peur du peuple, a là une contradiction entre la volonté de tous les républicains en 48 comme en 70 de maintenir le suffrage universel et en même temps en face d'eux, des « entre guillemets rouges » qui, eux, ne veulent pas d'élection parce qu'ils savent qu'ils seront battus.
Donc, ils préfèrent une révolution, c'est ça.
En 48 comme en 70, ils essayent de reculer au maximum les dates des élections parce qu'ils savent qu'ils seront battus par la masse des paysans.
Oui, bien sûr.
Voilà, Marie-Hélène Bellac, vous confirmez ça.
Oui, absolument. En 48,
c'est un paradoxe républicain.
L'Assemblée a été élue, a été conservatrice parce que les paysans avaient peur des partageux.
Voilà. Et le 4 septembre 1870, le jeune Léon Gambetta, avec Jules Favre, va prendre conscience du fait que l'Assemblée nationale, enfin le corps législatif, est envahi par justement ces partageux, ces rouges, ces révolutionnaires.
Alors là, il reprend les leçons de la révolution de 89, direction l'Hôtel de Ville, où on va proclamer la République, comme ça s'est fait, notamment aussi par Lamartine en 1848.
Oui, c'est le lieu.
On canalise le mouvement social révolutionnaire.
Pour éviter la révolution.
Pour éviter une révolution sociale.
Voilà.
Ce que veulent les républicains de 70, qu'il s'agisse de Gambetta, de Jules Favre ou de Jules Ferry, c'est une démocratie parlementaire. Ils font la synthèse entre le parlementarisme d'une partie de la droite orléaniste, Thiers, pour simplifier, et la démocratie, le suffrage universel. Et la Troisième République, ça sera ça.
Ça sera ça.
Ça sera la synthèse entre le mouvement démocratique et le parlementarisme.
Mais ces gens-là vont toujours se défier des révolutionnaires.
Oui, absolument.
Des tenants de la démocratie directe.
Ça sera le drame des républiques, aussi bien de la Seconde que de la Troisième. Les socialistes, comme on peut les appeler, même si le terme est trop vaste, les socialistes s'opposent à la République. Et ils vont continuer à le faire pendant toute la fin du 19e siècle jusqu'au début du 20e, où Jaurès seul essaiera de faire la synthèse entre l'idée sociale et la République.
Il a fallu attendre Jaurès.
Oui, parce que les mouvements socialistes comme Gued considèrent que la République est un mouvement bourgeois et qu'il faut le détruire, le prolétariat,
par la Révolution.
Donc 48 plus 70 égale une coupure entre les milieux artisans puis ouvriers et la République. Et le seul qui tentera véritablement la synthèse, c'est Jaurès.
Alors, quel rôle a joué Gambetta dans cette construction d'une République fragile et instable ?
D'abord, il s'est battu contre les Allemands, puisqu'il a été ministre de l'Intérieur et de la Guerre, et qu'il a mené la résistance contre les Allemands, parce que s'il est républicain, il est autant patriote que républicain. Il a voulu mener la guerre jusqu'au bout. Il n'a pas été suivi, in fine, par la majorité des républicains et du pays.
Il faut dire que la situation était un peu compliquée.
Certes.
L'occupation prussienne était occupée, quoi, un bon tiers du territoire?
Oui, pas loin de 43 départements sur 100, quoi. Ouais. Donc, ça fait beaucoup.
L'armée était quand même vaincue et passablement désorganisée.
Oui, mais Gambetta a su créer des armées nouvelles à partir de rien. Et Guillaume Ier, le roi de Prusse, et le futur empereur d'Allemagne, lui rendra hommage sur ce plan, quoi.
Et il faut aussi lui reconnaître le mérite d'avoir fédéré des énergies a priori antagonistes, telles Garibaldi d'un côté venu d'Italie, et des nobles angevins venus de Bretagne, des ouaires pontificaux venus pour défendre...
Parce que ces nobles bretons et angevins étaient aussi des patriotes.
C'est ça.
Et Gambetta les a pris autour de lui, les a acceptés comme militaires, et pendant un temps, ça a fonctionné. Ensuite, malgré tout, la guerre à outrance que souhaitait Gambetta a été désavouée par le pays, et Gambetta a démissionné.
Il a démissionné ou il a été démissionné?
Non, il a démissionné parce que certains lui proposaient de continuer la lutte à outrance, mais il a refusé parce qu'il voulait pas mettre le pied à feu et à sang. Mmh. Il voulait pas de guerre civile.
Voilà.
Il déteste la violence.
Ça,
et
c'est
donc
une constante. C'est une constante de son engagement politique.
Absolument.
Il déteste la violence. Et du coup, lorsqu'il s'est retrouvé face à la Commune et à cette guerre civile, quelques semaines, quelques mois après, quelle a été sa réaction?
D'abord, il était pendant la Commune, il était à Saint-Sébastien. Non pas qu'il ait fui quoi que ce soit, mais il était épuisé par les mois qu'il a passés à la tête des ministères de la guerre et de l'intérieur, seul pratiquement à mener le combat, parce que tous les autres étaient dans Paris assiégés. Et donc il est parti se reposer à Saint-Sébastien. Il a voulu intervenir quand la Commune a menacé puis a éclaté. Il a voulu intervenir comme médiateur, comme Clémenceau a tenté de le faire.
C'était possible, oui. C'était possible.
Non, c'était pas possible. Ouais. C'était pas possible parce que les Parisiens étaient excédés par la famine et le siège des Prussiens. Ils étaient excédés par le fait que la République de Thiers rende les armes et signe la paix, l'armistice puis la paix avec les Allemands. Ils voulaient des réformes sociales. Ils étaient naturellement, pour la population de l'Est parisien, socialement beaucoup plus avancés que ne l'étaient tous les républicains.
Mais on retrouve cette tension que vous avez évoquée, ce paradoxe.
Absolument, absolument. Ouais. Mais il n'avait pas de leader et la Commune, on ne va pas parler de la Commune sinon ça serait trop long, a mené des actions à la fois tout à fait intéressantes sur le plan social et a fini dans le sang et l'incendie des grands monuments de Paris.
Et les contradictions internes aussi,
elles sont innombrables.
Un peu comme en 48, les révolutionnaires se sont entre-dévorés
aussi. Oui, un peu
aussi.
Plus élaboré que les gens des juin.
Oui.
Il y avait quand même quelques leaders et des réflexions plus élaborées qu'en juin. En juin, c'était un cri de révolte contre la misère.
Oui.
La Commune, c'est plus que ça. Il y a déjà... sans aller jusqu'à ce que disait Lénine sur le fait que c'était une espèce d'annonce de ce qu'était la révolution de 17, ce qui est faux, il y avait des gens qui avaient des idées sociales et politiques au moment de la Commune et qui ont commencé à les appliquer à Paris, même si ça s'est terminé mal.
Marie-Hélène Bellac, vous retrouvez cette tension dans la Commune entre cette république sociale, révolutionnaire, insurrectionnelle, peut-être violente, et puis l'autre république, celle de Gambetta, qui est plus parlementaire, plus libérale et qui sort des urnes.
Je suis tout à fait d'accord que c'est beaucoup plus élaboré sous la Commune qu'en juin 48. En juin 48, justement, il a manqué des chefs. Déjà, il y en avait déjà qui étaient partis, qui étaient sous les verrous, comme je disais tout à l'heure, ou en exil. Et au fond, ça a été d'abord un soulèvement, même si certains ont un soulèvement de la misère, pardon, même si certains ont insisté sur le fait qu'il y avait une conscience de politique. Enfin, ça a été ces dernières années, il y a eu un certain nombre d'études là-dessus. Certes, mais enfin, c'était d'abord la fin. Hein, c'était quand même. Et puis un désespoir, il faut dire. Je pense que, à la limite, je pense que le désespoir est presque pire que pendant la Commune. Je trouve plus brutal.
Ah oui, beaucoup plus.
Vous êtes
beaucoup
d'accord. Plus,
La Commune, il y a au contraire un espoir au début.
Voilà.
Il y a un espoir que y a les autres villes de France suivent. Lyon et Marseille ont suivi, mais au bout de quelques jours, ça a été balayé. Et il y a une volonté de construire une société différente fondée sur une fédération de communes.
Alors revenons, si vous le voulez bien, à Gérard Ringer. Je rappelle le titre de votre livre, simplement, c'est Gambetta chez Perrin, donc une biographie de Léon Gambetta. Revenons sur la vision républicaine de Gambetta. Je crois crois qu'il faut souligner ce qu'on a appelé son adhésion, sa construction du programme de Belleville en 1869. Où vous nous expliquez, Gérard Ringer, que Léon Gambetta était favorable au suffrage universel, aux libertés individuelles, à la séparation de l'Église et de l'État, à l'instruction gratuite et obligatoire, au mandat impératif, à la suppression des armées permanentes et à l'élection des fonctionnaires. Ça ressemble beaucoup à la Commune, ça, quand même.
Non.
Expliquez-moi,
Gérard Ringer. Ça ressemble au programme de Lamartine en 1848. Oui. Mm-hmm. C'est la continuation du programme de Lamartine, sauf les trois derniers points que vous avez cités.
Je rappelle le mandat impératif. La suppression des armées permanentes et l'élection des fonctionnaires.
Bon, ça, c'est Gambetta. Il avait aussi un sens de l'opportunité qui était réel. Mm-hmm. C'est Gambetta qui a accepté ça pour complaire à ses électeurs de l'Est parisien.
De Belleville, de l'Est parisien. Exactement. Et on retrouve cette importance de l'Est parisien.
Il a ensuite complètement abandonné toutes ses idées. Il n'y croyait pas une seule seconde, surtout après la défaite de 70 qui lui a montré la nécessité des armées permanentes. Le mandat impératif, il n'y croit pas une seule minute. Et l'élection des fonctionnaires, on n'est pas aux États-Unis, quoi. Donc ça ne marche pas. Mais en revanche, le reste, c'est la suite du programme de 1848.
Suffrage universel, liberté individuelle, séparation de l'Église et de l'État. Alors, quel était le regard porté par Léon Gambetta sur les questions religieuses? Vous écrivez qu'il était anticlérical, mais pas anti-religieux, et que son athéisme était discret. Expliquez-nous la nuance, Gérard.
Il considère que les gens ont le droit de croire ce qu'ils veulent, et que donc les catholiques ont le droit au respect comme tous les citoyens français, y compris dans leurs convictions et leurs croyances. En revanche, il ne veut pas que la religion se mêle de politique. Le cléricalisme, voilà l'ennemi, dira-t-il. Oui. Donc c'est clairement la lutte contre l'influence politique de l'Église et de la mainmise de l'Église sur les milieux conservateurs voulant imposer leur système qu'il combat. Mais pas la conscience catholique.
Mais également sur le système éducatif aussi. Il était opposé aux congrégations enseignantes.
Oui, mais il n'était pas opposé au concordat.
Oui.
Parce que, pour beaucoup de républicains à l'époque, le concordat permettait au pouvoir de contrôler l'Église. Et ça, c'est important. Mmh. Donc, il a fallu attendre les bêtises du pape Pie X en 1904-1905 pour que l'État aille vers la séparation de l'Église avec le pouvoir politique. Mais là, les catholiques n'étaient pas contre. Les enseignants, c'est venu progressivement. C'était d'abord les jésuites contre lesquels il y avait une haine
qui focalisait,
ancestrale. Mmh. Ils étaient déjà interdits sous Louis XV. Charles X les a interdits en 1827 également. Donc il y a une vieille hostilité française à l'égard des jésuites qui sont purement et simplement les instruments du pape. Comme un cadavre devant les instructions du pape. Il veut une éducation républicaine, une éducation laïque. Comme Jules Ferry, là-dessus, il n'y a pas une feuille de papier à cigarette entre les deux hommes. Il veut surtout soustraire, pour le coup, même s'il n'est pas féministe, le contrôle de l'enseignement des jeunes filles à l'Église. Et il veut qu'il soit républicain, comme Victor Duruy avant lui sous l'Empire, et puis Camille C. Au début des années 1880. Donc il ne veut pas d'une Église dominatrice. En revanche, la conscience de chacun, il n'y touche pas, même si lui-même était déiste quand il était jeune. Il est devenu athée, mais il ne fait pas profession d'athéisme tous les matins.
Pour résumer, Gérard Ringer, le républicanisme de Léon Gambetta n'était pas utopiste, n'était pas pacifiste. Il était opposé aux violences, il était libéral, il était parlementaire, on peut dire ça ?
Il était parlementaire, mais en même temps, il était démocratique. Quand Thiers souhaite la République et dit « la République sera conservatrice ou ne sera pas », Gambetta lui aussi souhaite la République, mais il veut une République beaucoup plus large. Et il parle de couches sociales nouvelles dans un discours à Grenoble en 1872.
Alors, est-ce que c'était qui évoquait-il quand il parlait de couches sociales nouvelles ? Est-ce que c'était les ouvriers révolutionnaires ou est-ce que c'était la classe moyenne en devenir ?
Non, c'était... la classe moyenne modeste, composée d'enseignants, composée d'employés, composée d'artisans aisés, de professeurs, d'avocats en province, etc. Toutes ces couches moyennes, effectivement, qu'il voulait voir accéder...
Et qui étaient en croissance.
Qui étaient en croissance, mais qu'il voulait voir accéder à la responsabilité politique. Mmh. Pour lui, il n'y a pas de raison que le pouvoir politique soit confisqué par les notables et par les ducs. ce que disait Daniel Halévy, globalement, entre 1871 et 1879... la République n'est pas aux mains des républicains. Elle est aux mains des conservateurs. Voilà. Et tout le combat des républicains va être d'imposer progressivement une république républicaine avec toutes les libertés de réunion, d'association, plus tard, de presse, etc. Le refus du contrôle de l'Église sur la vie sociale.
Est-ce qu'il s'est agi pour Léon Gobetta de rapprocher la République du peuple, Gérard Ringer?
Pour lui, le peuple était républicain.
Par essence.
Oui. Et il a su progressivement s'intéresser à la grande masse des Français, c'est-à-dire les paysans, et les amener, malgré les rouges dont les paysans avaient peur, on en a parlé tout à l'heure.
C'est ça, les partageux.
Il a amené les paysans à la République. Les paysans étaient très attachés à l'Empire. C'est une période de prospérité forte.
Aux deux empires.
Oui, au premier un peu moins. Au premier, c'est la Loire. Oui, ils sont fiers de la Loire.
Et puis le premier a préservé la vente des biens nationaux quand même, qui a permis à la paysannerie de s'installer.
Absolument. Oui. Mais
il y a la légende qui s'est greffée.
Oui, il y a tout ça, mais en même temps, la conscription de la fin du Premier Empire,
ça commençait à peser
sérieusement.
En revanche, mais le neveu, on a plutôt bien apprécié.
Ah oui, parce que là, ça a été la prospérité.
Voilà,
ça a été la prospérité. Mm-hmm. Ça a été l'arrivée des chemins de fer dans les campagnes. Ça a été le développement industriel également de ces campagnes. On assiste là vraiment à... Si Napoléon a pu gouverner pendant 18 ans... Et s'il n'avait pas gagné, et s'il n'avait pas lancé la guerre, il aurait régné, lui et son fils, sans doute beaucoup plus longtemps.
Ah oui,
parce que la masse des Français, en mai 1870, lui donne 80% des voix pour la continuation de l'Empire.
J'ai mon chiffre, disait-il.
J'ai mon chiffre.
Il nous reste juste en 30 secondes, Marilyn Bellac, votre regard, vous qui avez étudié la Deuxième République, votre regard sur Léon Gambetta, c'est un successeur de ceux que vous avez étudié.
Ah, moi, je trouve qu'on est presque dans un autre monde.
Ah oui, à ce point-là.
Parce que, effectivement, vous parlez tout à l'heure de rationalité, d'une république réfléchie. On ne sait plus l'espèce de débordement un peu brouillon, qui est d'ailleurs la suite, finalement, des socialismes utopiques. Hein, finalement, le nom n'est peut-être pas faux. Hein,
on a perdu en romantisme.
On a perdu le romantisme.
Et pourtant... Dieu sait si notre Troisième République était ronflante. En un mot,
je voudrais, moi, pour nos auditeurs, conseiller des livres de littérature sur toutes ces périodes. Le premier, Balzac, Les Illusions perdues, sur la Restauration avant Louis-Philippe. Lucien Leven sur la monarchie de Juillet et comment on fait les élections à cette époque-là. Flaubert, L'éducation sentimentale sur la Révolution de 48.
Bon conseil de lecture.
Et Zola, La débâcle.
Oui, et relisons. Même avant début, le premier des Rogon-Macquart.
Absolument.
On va relire tout cela et on va relire aussi vos livres. Gérard Ringer, Gambetta chez Perrin, Marie-Hélène Bellac, La peur du peuple, histoire de la Deuxième République chez Perrin et Daniel de Montplaisir, Les Trois Glorieuses, la Révolution de 1830 démystifiée toujours chez Perrin. Grand merci à vous tous. Merci pour ce dialogue absolument passionnant. Vous pouvez retrouver cette émission ainsi que les références des livres de nos invités sur les sites de RCF. Vous pouvez nous écouter également en podcast, en balado-diffusion, comme on dit, au Québec. Un grand merci à notre réalisateur Pierre-Henri Paget et merci à vous tous pour votre fidélité.